Je me trouve actuellement au Grand Palais Immersif Bastille, qui est un lieu un peu méconnu de la place de Paris, un lieu d'accueil culturel. Et je profite d'une exposition assez exceptionnelle, qui est l'œuvre de l'artiste contemporain autour du monde des pixels, qui s'appelle donc Miguel Chevalier. Son exposition s'appelle Pixel. Bonjour Miguel Chevalier et bienvenue à la Radio du Cinéma.
Bonjour.
Donc votre adolescence est passée au Mexique. Oui. Suite à ça, en fait, vous avez... Donc vos parents sont universitaires, en fait, votre papa est chercheur,
oui, d'accord. Oui.
Il étudie notamment l'histoire de l'Amérique latine. Oui. Donc ça vous a donné peut-être cette curiosité un peu naturelle aux choses, de manière générale. Oui. Et puis, vos parents partent vivre à Madrid, oui, où vous allez les accompagner, bien entendu, et c'est votre première expérience avec l'Europe. Vous installez ensuite à Paris, et là, vous allez être impressionné par plusieurs expositions. Je pense notamment à celle qui est consacrée à Marcel Duchamp en 1977, oui, et les fameuses Paris-New York, Paris-Moscou, Paris-Berlin, au Centre Pompidou, oui, qui vont vous frapper, et ça va devenir comme une espèce de révélation pour vous.
Oui, tout à fait. Effectivement, en deux mots, oui, c'est vrai que je suis né au Mexique de parents français. Et il s'est trouvé que mon père, à l'époque, on demandait souvent aux diplomates. Les diplomates n'étaient pas forcément, avaient fait carrière dans la diplomatie, mais ça pouvait être aussi des universitaires. Et comme vous l'avez dit, mon père était spécialiste de l'histoire de l'Amérique latine. Et il a créé le premier institut français à Mexico, à l'époque, avec un cinéaste que l'on connaît bien, qui est Luis Buñuel, et il s'occupait de la cinémathèque, et c'est là où j'ai pu découvrir, disons, les premiers films un peu expérimentaux qu'ils avaient fait pour le surréalisme, avec Dali, le chien andalou, et donc c'est un peu comme ça que, disons que j'ai passé mon adolescence avec un milieu culturel mexicain très riche, parce que mes parents avaient créé aussi une salle d'exposition temporaire, donc j'ai pu rencontrer les artistes du muralisme, des artistes comme Diego Rivera, Siqueiros, et au fond ces artistes-là, on pourra le voir, m'ont influencé aussi dans ce goût pour faire des créations XXL, donc de très grands formats. C'est vrai que l'exposition qui est ici est un peu emprunt aussi de ce rapport à la couleur qui est très présente dans ce pays qui est le Mexique. Avec des architectes comme Barragán qui eux-mêmes introduisent des couleurs assez violentes, assez contrastées, comme le rose ou des jaunes fuchsia, etc.
Oui, des couleurs très saturées, presque fluo. Quoi, hein.
Voilà, fluorescentes. Et c'est vrai que ce pays m'a beaucoup marqué sur cet aspect de la couleur. Et après, effectivement, j'ai eu la chance d'aller à Madrid, où mon père s'est occupé d'une institution qui s'appelle la Casa Velázquez, qui est un peu comme la Villa Médicis. Et là aussi, j'ai été amené à rencontrer de nombreux artistes plutôt de l'abstraction espagnole, comme Tapies ou le sculpteur Chillida. Voilà. Et bon, ensuite, quand j'ai dit à mes parents, je voudrais être artiste, ils m'ont dit, oh là là, on connaît certains artistes qui réussissent beaucoup, mais la plupart... je ne dirais pas galère, mais enfin, sont amenés souvent à ne pas vivre de leur création. Donc voilà, donc j'ai quand même, mes parents avaient quand même un esprit d'ouverture, et donc j'ai pu faire l'école des Beaux-Arts de Paris, qui est à l'époque, à la fin en 78, était une école assez décalée de tout ce qui se passait avec le monde de la photo, de la vidéo, de la performance. Donc très vite, je suis allé dans une autre école. J'ai passé le diplôme de l'École nationale supérieure des beaux-arts, mais ensuite, je suis allé aux arts déco, à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, dans un département un peu spécifique qui est le design. Et là, j'ai eu un mentor qui est Roger Talon. Roger Talon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a inventé le train corail, mais aussi le TGV. Et puis, il a lui-même le Minitel, qui était déjà une préfiguration d'Internet. Et au fond, ce designer était assez visionnaire, parce que lui-même a fait la maquette de Art Press. Il était proche de Yves Klein.
Art Press, c'est un magazine,
ouais, très spécialisé dans l'art contemporain. Et lui, en voyant tout l'intérêt que j'avais pour le domaine artistique, le champ pictural, il m'a dit, mais écoute, qu'est-ce que tu peux faire après Yves Klein qui réduit la peinture au monochrome, après Fontana qui parle du concepto spatiale, peut-être qu'il faut explorer les outils numériques. Mais à l'époque, au début des années 80, l'accessibilité à ces outils était extrêmement difficile, puisque en fait, il n'y avait que les laboratoires type oui, CNRS.
Très élitiste, en fait.
Hein. C'était en fait, il n'y avait que les scientifiques ou la télévision qui avaient ce qu'on appelle des palettes graphiques, des pen box à l'époque. Mais ces outils, on ne les enseignait pas du tout à l'école des Beaux-Arts de Paris. Et aux arts décoratifs, on apprenait un peu la vidéo, mais en aucun cas, on avait accès à ces moyens, à ces outils. Voilà. Et donc, il a fallu un peu la complicité de personnes atypiques et d'un ingénieur, en l'occurrence Serge Equilbé, qui était sensible aussi à l'art, parce que parfois, c'est un ingénieur.
C'est un scientifique, on est d'accord, qui travaillait au CNRS.
Qui travaillait au centre d'optique à Orsay.
Qui
voilà,
vous a entrouvert la porte de son laboratoire.
Et qui m'a dit, écoute, de minuit à 6h du matin,
t'es chez toi.
si vraiment tu es intéressé, je peux te donner accès, parce que les calculateurs, c'était des calculateurs grands comme une pièce entière. Wow. On ne les utilise pas, donc voilà. J'ai commencé à comprendre les potentialités de cet outil et je me suis dit, ce qui est intéressant, c'est que à l'époque, on pouvait quand même numériser déjà c'était des diapositives, ça n'existe plus aujourd'hui, mais à partir de cette diapositive, en fait, on pouvait gérer entre le noir et le blanc, il y a un certain nombre de valeurs de gris, et c'est ce que j'appellerais la chair de l'image, et on pouvait commencer déjà à l'expérimenter en quelque sorte et à travailler toutes ces couches, ces strates successives.
Et vous avez vectorisé des objets, c'est
alors,
ça
ou comment alors,
ça marche,
alors en fait, fait hein. Oui, il fallait coder déjà.
Ouais.
Et donc la complexité, c'est que moi, j'étais un peu autodidacte. Je n'avais pas du
D'accord.
tout de formation de cette nature.
Ouais.
Dans les écoles des Beaux-Arts et des Arts Déco, on n'enseignait pas du tout ces aspects-là. Mais grâce à cet ingénieur, j'ai commencé à m'y intéresser, à savoir un peu ce que c'était que l'algorithmie. Je me suis dit, c'est un outil qui va m'ouvrir de nouveaux champs des possibles. Et quand on regarde l'histoire de l'art, on s'aperçoit qu'à chaque époque, les artistes utilisent les moyens de leur temps. Et au fond, des exemples m'ont montré que, ou nous montrent que, par exemple, un artiste comme Man Ray, qui a travaillé la photo, qui n'était pas considéré comme un mode artistique, finalement, avec la persévérance et puis en faisant les rhyogrammes, il a montré que malgré qu'on utilise un boîtier photographique, en fait, en fonction du rapport à la lumière, du cadrage, on pouvait créer des œuvres à part entière avec un médium qui n'était pas de nature à être artistique, mais même les peintres le refutaient au 19e siècle. Et puis on s'est aperçu que des artistes comme Nen Junpei qui ont utilisé la vidéo, finalement on l'élevait au rang d'œuvre artistique. Et donc je me suis dit, si je continue dans cette voie-là, peut-être avec ces outils, non pas pour en faire leur apologie, on va peut-être développer une écriture à part entière qui va prendre en compte certains de ces outils et voir peut-être les liens qu'il peut y avoir avec l'histoire de l'art, mais comment on va pouvoir ouvrir de nouveaux champs des possibles.
C'est vrai qu'à l'époque où vous vous lancez dans cette aventure artistique, vous êtes un pionnier.
Voyant les potentialités de ces outils, je me suis dit, je vais postuler à une bourse. Et j'ai eu une bourse de la Villa Médicis et qui m'a permis d'aller à New York.
Ah, génial.
Et la bourse Lavoisier, exactement. Et cette bourse Lavoisier m'a permis d'aller au Pratt Institute et à School of Visual Arts à New York. Et c'est là où j'ai commencé à voir les premiers ordinateurs plus petits. Et à comprendre que peut-être les choses allaient changer dans les mois, les années à venir. Et j'ai eu un peu cette révélation que cet outil était vraiment un moyen d'expression pour moi qui allait me permettre de créer des œuvres dans ce domaine de l'art. Alors, je suis revenu en France et là, j'ai vu la complexité, la réticence du microcosme de l'art. À partir du moment où on utilisait un ordinateur, on pouvait être qu'un technicien et en aucun cas un artiste. Et donc, il a fallu pas mal de persévérance et puis quelques critiques d'art comme Pierre Estany ou Pontus Hulten, qui a été le directeur du Centre Pompidou, qui a commencé à la fin des années 80, donc il y a un peu une traversée du désert.
À considérer votre travail.
A penser que là, il y avait un champ de réflexion possible. Il faut dire aussi que j'étais à contre-courant de tout ce qui se passait, parce que le début des années 80, après l'art minimal, les nouveaux réalistes, le pop art, on est revenu à une forme de peinture, donc et avec des artistes comme Garouste, ou pour ne pas le citer, mais ou le street art avec Kissarine, Basquiat, Combas, Di Rosa. Donc c'était tout ce début des années 80, c'était les feux étaient sur ce retour à la peinture. Alors, c'est vrai que j'étais à contre-courant. Voilà. Et c'est qu'à la fin des années 80 que, peu à peu, certaines personnes du milieu de l'art ont commencé à voir qu'il y avait un champ de réflexion nouveau. Et puis aussi, c'est l'apparition et la démocratisation des premiers ordinateurs. C'est-à-dire qu'en 85, j'ai pu acquérir un Amiga de Commodore qui était... Alors là, il y avait un logiciel de dessin qui était un peu la préfiguration de Photoshop aujourd'hui, que tout le monde connaît, mais tout ça n'était pas... il y avait... dans ce domaine-là, il y avait tout à explorer et la communauté était très petite et Internet n'existait pas. Donc, c'est bon, je ne veux pas faire une archéologie de tout ça, mais...
Évidemment, je pense qu'aujourd'hui, techniquement, les œuvres que vous proposez seraient, entre guillemets, beaucoup plus accessibles à un jeune artiste, d'un point de vue fabrication numérique, que vous, à l'époque, quand vous avez démarré votre travail.
On était au balbutiement.
C'est l'âge de pierre.
Mais c'est l'âge de pierre. Ouais. Et puis, comme tout début, il faut... Une chose, c'est de commencer, mais ensuite, il faut poursuivre. Et alors, les années 90, il y a eu, alors là, cette démocratisation plus vaste de l'accessibilité aux ordinateurs. Donc ça, ça a été bien, parce que moi, j'ai plus été dépendant de laboratoires tels le CNRS. Donc j'ai pu acquérir mes propres outils. Et ce qui est aussi passionnant, c'est qu'on s'aperçoit qu'à la fin des années 90, à ce moment-là, apparaît tous ces jeux vidéo qui vont demander de plus en plus de calculs. Et qui dit calcul, du coup, les ordinateurs deviennent de plus en plus puissants. Parce qu'avant, les créations que je faisais, c'était plutôt des œuvres fixes ou des œuvres qui utilisaient le numérique et la vidéo, donc qui était ce passage. En fait, tout mon travail était entre peinture et numérique, puisqu'on pouvait numériser mes propres peintures, entre photo et numérique, puisqu'on peut numériser des photos et les transformer avec les premiers logiciels de LuxPaint, mais ensuite Photoshop. Et puis ensuite, j'ai pu animer mes dessins et mes photographies et mes peintures, et c'est devenu ce passage entre analogique et numérique, c'est-à-dire la vidéo. Donc là, je me suis aperçu que l'ordinateur était une véritable plateforme sur tous les médiums que l'on connaît dans le monde de l'art. Mais à la fin des années 90, je me suis aperçu que je pouvais créer des logiciels qui vont pouvoir générer des univers en soi. Et je me suis intéressé aux botanistes, par exemple, parce que j'avais fait tout un travail sur la serre, les serres du Jardin des Plantes, c'est un espace artificiel. Moi, je travaille beaucoup avec des images artificielles. Et en fait, je me suis aperçu que dans le champ de la botanique, on faisait de la simulation de croissance de plantes. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, je pourrais créer peut-être des plantes qui n'existent pas, qui sont calquées sur ces formes d'études de comment une plante pousse dans un milieu aride ou pas aride. Et j'ai commencé à créer un herbier Avec
Donc il y avait une flore dédiée.
Voilà.
La flore chevalier, quoi. Finalement.
Voilà, voilà. Alors j'ai créé les premières surnatures. Alors c'est un logiciel.
Ça, c'est le démarrage de votre travail.
Alors c'est le démarrage de ce que j'ai de ce qu'on appelle aujourd'hui des œuvres génératives. Oui. Donc en fait, j'ai créé un herbier avec différentes graines virtuelles. Chacune de ces graines pousse, se développe. Meurt, et quand elle meurt, elle crée des variations. Donc on n'est plus dans une œuvre qui va être en boucle, mais dans des œuvres qui se transforment dans le rapport au temps. Et du coup, comme les ordinateurs devenaient de plus en plus puissants, bah, j'ai pu développer ces premières œuvres qui s'appellent les surnatures. Et ces surnatures, à partir de cet herbier, en fait, j'ai pu composer des jardins, un jardin de lumière qui va se transformer dans le rapport au temps. Et ensuite, ben ces jardins, ensuite, on va pouvoir interagir avec des capteurs. Selon qu'on se déplace, on va être les disciples de Éole. Les plantes vont se courber dans le sens du déplacement de votre corps. Et c'est comme ça que donc j'ai peu à peu ouvert un nouveau champ des possibles dans ce domaine, c'est-à-dire des œuvres qui évolue, se transforme. Au fond, c'est 100 ans après ce que Monet avait développé sur l'idée déjà des nymphéas, qui était de créer d'abord aussi des séries, en quelque sorte, qui captent le rapport au temps, la lumière. Mais ensuite, l'idée, c'est que les nymphéas aussi, on rentre dans l'image, en quelque sorte, on rentre dans la peinture. Et l'idée, c'était de créer des œuvres aussi, on va pouvoir être immergé dans l'image et interagir avec cette image. Donc voilà, donc c'est comme ça que l'éducation nationale m'a mis au programme du bac 2024 et 2025. C'est-à-dire que tous les jeunes qui doivent étudier et passer le bac en dessin sont amenés à étudier ce que je développe. Voilà, bon, ça c'est une petite anecdote.
Mais
voilà.
Les sons qu'on entend dans la prise de son qu'on a là, c'est le son de l'exposition, puisqu'on est sur le lieu même de l'exposition. Et il y a une bande-son très très dédiée, qui est un son très spatial, comme ça, et assez planant. Et je dois avouer que c'est contextuellement très agréable.
Oui, alors voilà, c'est Thomas Roussel qui est ce compositeur qu'on connaît, moins pour faire des œuvres sur le digital, mais il a cette capacité de par sa formation à embrasser toutes les possibles de la musique et de la composition, et donc il a créé cette pièce musicale qui est en adéquation avec mon travail et qui va pouvoir interagir. Et donc l'exposition, bien sûr, j'ai créé comme un scénario avec des œuvres des années 90. Alors j'ai pas mis beaucoup d'œuvres des années 80 parce que parfois on me dit « Ah, mais ça, est-ce que c'est une rétrospective ?» J'ai dit non, s'il faudrait une rétrospective, il faudrait que j'ai peut-être 4-5 000 mètres carrés. Là, il y en a 1200, ce qui est très bien au demeurant. Mais donc du coup, ça représente à peu près 30% de mes recherches. Et dans cette exposition, en fait, on y voit au départ des œuvres sur la codification de l'image. Donc une œuvre qui s'appelle « Fenêtre mémoire hexadécimale » et qui montre le chiffre à l'infini parce que par des systèmes de miroirs sans teint. Et donc ça donne cette idée aussi que ben, on est de plus en plus dans cet univers du digital. Et ensuite, il y a des œuvres qui vont ponctuer les espaces avec des œuvres interactives, et donc qui s'appelle l'œil de la machine. L'œil de la machine, en fait, c'est ces caméras de reconnaissance faciale qui vont nous, en quelque sorte, nous créer un autoportrait de nous-mêmes en nous fragmentant. Et bon, donc c'est des œuvres qui vont, selon les couleurs des vêtements que l'on a, pas nous pixeliser, mais nous tesseliser. La tesselisation, c'est en fait ce qui a été inventé par le mathématicien Voronoi. Si on va voir les créations de Gaudi, l'architecte, il a créé des mosaïques qui ne sont pas des mosaïques orthonormées, mais qui sont des mosaïques fragmentées, tessellisées, comme des tesselles. Mais il y a cet espace triangulaire où j'ai donc créé cette œuvre qui s'appelle Cyberespace. Et donc on est un peu dans un travelling à l'intérieur d'une ville imaginaire. Et qu'est-ce que pourrait être une architecture du cyberespace en quelque sorte, voilà. Accompagnée de cette musique de Thomas Roussel, voilà. Et puis ensuite, on a une salle sur tout le contrôle, la supervision, donc qui est fait entièrement en IA, donc avec de multiples écrans verticaux et horizontaux. Et ces écrans, on voit les prompts. Les prompts, vous savez, c'est aujourd'hui, c'est le descriptif que l'on fait pour obtenir le résultat d'une image.
C'est qu'à partir de mots, en fait, on compose une potentielle création à partir de mots. C'est-à-dire que les mots se transforment en œuvre et on affine le prompt, c'est-à-dire l'écriture de cette œuvre, pour arriver à quelque chose qui correspond à vos attentes.
Exactement. Alors, c'est assez simple avec des logiciels comme Midjourney de faire une image.
Oui.
Après, d'animer tout ça, ça devient beaucoup plus complexe. Mais bon, toujours est-il que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'IA n'est pas si intelligente que ça, puisque elle prend dans les data centers, il y a des câbles, bien sûr, pour alimenter tous les réseaux sociaux. Mais l'intelligence artificielle prend les câbles pour des serpents. Et donc, j'ai laissé un peu tout ce côté un peu invraisemblable de l'IA qui n'arrive pas à déceler la différence entre des câbles et ce que peut être des serpents ou des caméras de surveillance qui les prend pour...
Ah donc, il y a certaines confusions.
Et il y a pas mal de confusions, mais du coup, j'ai laissé ces confusions.
C'est ça, pour que... Ça génère finalement des choses aléatoires.
Ça démystifie parce qu'on a l'impression que l'IA va nous remplacer, mais en fait, il faut savoir que l'IA, c'est finalement toute la réunion de ce que les êtres humains ont créé et mis sur Internet.
Alors, on a oublié de préciser quelque chose d'important, c'est qu'il y a des œuvres en volume dans votre exposition. Et on a la sensation que justement, c'est comme si les pixels étaient sortis de l'écran et avaient créé une espèce de sculpture. Et on a pratiquement l'impression d'avoir affaire à des personnages d'un autre genre, mais qui pourraient potentiellement vous parler.
Oui. Alors vous avez raison, en fait, donc c'est vrai que l'expo autour du pixel, mais aussi du voxel, c'est-à-dire le pixel en volumétrie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir des logiciels que je développe avec des informaticiens, en fait, on peut matérialiser quelque chose qui vient du virtuel. Le virtuel qui apparaît comme quelque chose d'impalpable, avec les imprimantes 3D, on peut lui donner une matérialité. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'artistes partent du réel pour aller vers le virtuel. Là, on part du virtuel pour revenir au réel, ce qui est un peu différent.
Ouais.
Et par rapport à la sculpture que vous évoquez, en fait, puisque l'exposition traite du monde des réseaux, des flux, des caméras de surveillance, en fait, j'ai pris le dieu romain qui est Janus. Janus, c'est une sculpture qui a deux têtes. Et donc, ces deux têtes, c'était déjà, à l'époque romaine, le dieu qui contrôlait les entrées et les sorties dans les villes. Donc, c'était déjà une forme de surveillance, en quelque sorte, et du contrôle. Et donc, ce Janus, il est sous différentes formes, à la fois, comme vous le dites, en sculpture, mais aussi en tapisserie et en broderie numérique. Et donc là, on renoue avec tout le principe des métiers jacquard, avec les cartes perforées, qui étaient déjà une préfiguration du monde numérique.
Voilà. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est ça, c'est que vous arrivez quand même à faire des parallèles par rapport à des arts qui ont été pratiqués ou qui continuent à être pratiqués, mais avec une certaine discrétion, et vous les revisitez, vous les réinventez quelque part via le numérique en leur donnant une autre matérialité.
Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de jouer de tout ce jeu entre immatériel et matériel. Et puis ensuite, on a un espace hors norme qui est un peu l'espace, le plus spectaculaire de cet espace. C'est cette pièce qui s'appelle Maillage cosmique. Et donc là, je l'ai faite aussi par rapport à cet espace. Donc c'est des œuvres in situ. Et donc l'œuvre est projetée au sol, sur 700 mètres carrés au sol. Et quand les gens se déplacent, ils interagissent à niveau du sol et à la fois à la verticalité sur 11 mètres de hauteur.
Comment au quotidien vous arrivez à vous réinventer et de dire tiens, l'IA est arrivée, comment est-ce que je peux apprivoiser cette technologie par rapport à une démarche d'exploration que je n'ai pas encore abordée?
Ben, en fait, il y avait déjà le fait que j'utilise déjà les outils numériques.
Ça vous
prédispose. Ça me prédisposait. Alors là, ça ouvre des autoroutes.
Ça décuple. Oui.
Ça décuple pour moi. Et notamment, j'avais développé une création qui s'appelait Transnature, qui était déjà une nature réinventée à partir de photos, de dessins. Et du coup qui crée une nature qui se transformait. Et alors là, maintenant, aujourd'hui, avec l'IA, donc je peux créer une nouvelle base de... Je suis en train de créer une nouvelle base de données qui s'appelle Métanature IA, 4 saisons, qui en fait, la banque de données est faite entièrement de textures d'arbres, de fleurs, de branches, etc., autour de la nature. Et donc, ça réinvente une nature en 2 dimensions et en 3 dimensions, et dans lequel, ça crée des jeux de transparence. Et finalement, c'est un outil. Et comme tout outil, il y a des moments où on obtient des résultats parfois inintéressants, et puis d'autres que je retiens. Et l'IA, il faut dire la machine n'a pas la conscience de l'image. Donc c'est à partir des prompts que l'on écrit et aussi des référents. C'est-à-dire que moi, j'ai une banque de données que je lui donne comme référent, et à partir de là, la machine est force de proposition et me permet comme ça de redéployer mon travail et de créer des œuvres tout à fait, que j'espère, intéressantes, étonnantes.
Si on se projette un peu là, dans les 6 mois, les 2 ans à venir, là, est-ce qu'on pourrait envisager d'aller non pas dans une exposition où finalement les projections se font sur les murs, mais est-ce qu'on pourrait envisager de se promener au milieu d'une forêt en matière, avec des objets, en fait? Est-ce que c'est la potentialité de demain?
C'est tout à fait. Moi, je crois beaucoup à... Je ne crois pas tellement au casque de réalité virtuelle, parce qu'on a vraiment les écrans devant les yeux.
Oui,
moi,
l'expérience est différente.
Moi, je crois que ce qui est intéressant, c'est le mélange du virtuel et du réel. Et avec les imprimantes 3D, on va pouvoir créer des environnements qui associent les deux pour qu'à terme, on puisse vraiment être de nature à créer des émotions au même titre que la peinture ou la photo. Voilà, c'est un médium. Je pense qu'il n'y a pas encore assez d'artistes assez curieux pour en comprendre tout l'immensité que ça ouvre. Alors à la fois, c'est un peu vertigineux, mais à la fois, je pense que là, il y a véritablement matière à repenser qu'est-ce que peut être la peinture du 21e siècle avec ces outils.
On pourrait imaginer un reportage ou un film qui parle de votre travail, plutôt une création visuelle, mais de l'ordre d'un film, en fait, une réalisation avec tout un scénario, une histoire, avec des personnages totalement numériques. Est-ce que c'est quelque chose qui chamboulerait un petit peu le monde du dessin animé, mais qui correspondrait à une œuvre d'art et en même temps quelque chose qui s'apparenterait à votre univers?
Tout à fait. Là, je suis en train de réfléchir à une pièce qui s'appelle Terra Incognita, et qui serait une coupe de mon cerveau qui devient le nouveau territoire d'un imaginaire de tous les projets que j'ai jamais pu réaliser. Et donc c'est en train de... Voilà, je suis en train de mettre tous les ingrédients peu à peu.
C'est une vraie info, merci.
Voilà,
Miguel, pour cette,
voilà. Pour mais cette donc il y avait déjà des prémices avant, mais là je pense un peu comme la valise de Duchamp qui est capable de réunir dans un seul et même élément toutes les pièces clés de sa création. Terra Incognita, ça sera comment on peut aller au cœur du cerveau et essayer de comprendre comment l'imaginaire peut être amené à développer des créations où on est dans un environnement à la fois immatériel et matériel.
C'est-à-dire qu'en fait, vous mettriez à disposition une visite virtuelle de votre propre cerveau.
Voilà, c'est ce que je sais.
C'est plutôt généreux. D'accord.
Bon.
Eh bien, alors, voilà. C'est pour bientôt ce projet-là? Vous êtes en train de travailler dessus ou...
Oui, alors c'est la complexité de tout ça, c'est qu'il faut à la fois œuvrer pour que le projet ne soit pas que le rêve devienne réalité. Ouais. Donc il y a ça. Après, il faut, comme tout... Alors c'est des coûts moins chers que le cinéma, mais il y a quand même chaque fois aussi les problématiques de financement de tout ça, et puis après de lieux qui l'acceptent pour pouvoir le montrer. Mais bon,
c'est dans l'ordre des choses.
Voilà, c'est dans l'ordre des choses, et voilà, et il faut aller vite parce que la vie est courte, et malheureusement je suis pas non plus tout jeune, mais bon, voilà, ça fait partie des 10 prochaines années.
D'accord.
Voilà, donc c'est un peu comme une ligne de fuite.
Bien et sûr. Voilà, un pour objectif. Lequel,
ouais, un objectif.
Tout ce travail, qu'est-ce que ça dit de vous exactement, Miguel ?
Ce que ça dit, c'est un petit peu comment j'essaie d'être de mon temps avec les outils de mon temps, comment parler du monde qui est le nôtre. Au fond, c'est avec ma sensibilité, avec mes référents un peu mexicains, un peu espagnols et un peu français, voilà. Et c'est toute cette relation de mixité qui, j'espère, crée une œuvre au sens fort du terme. Mais bon, après, c'est les autres qui peuvent en parler mieux que moi, parce que bon, moi, je propose et après, voilà, c'est les regardeurs et les regardeuses qui peuvent être amenés à dire si vraiment ces œuvres en valent la peine.
Merci infiniment. Alors, votre actualité, c'est également la sortie d'une monographie. C'est votre 4e monographie. Celle-ci est éditée aux éditions Skira. C'est une œuvre magistrale. C'est un très, très beau livre, en fait, qui illustre les grandes pages de votre travail jusqu'à aujourd'hui. C'est une synthèse de votre travail à date, à aujourd'hui, en fait.
C'est pas une synthèse, mais disons que ça fait le point sur les 15 dernières années de mon travail.
Il y a une petite tradition pour clôturer nos interviews. Nous sommes à la radio du cinéma et donc je vais vous demander en fait votre film préféré, votre musique de film préférée et votre réplique préférée. Cher Miguel, vous avez trois marches devant vous, une petite scène. La scène vous appartient.
Bon, c'est difficile parce qu'il y a tellement de films extraordinaires que c'est un peu réduit.
Vous êtes un amateur de cinéma ?
Alors je suis un amateur, mais bon, je vois pas tous les films parce qu'il y en a, quand même. Il y a un rythme aussi conséquent, voilà, mais c'est vrai quand même, il y en a parmi, s'il fallait en citer un comme ça, de but en blanc, c'est vrai que Blade Runner, qui a été créé en 82,
bon, de Ridley Scott, évidemment.
Voilà, de Ridley Scott, voilà, c'est vrai qu'il m'a... Il m'a interpellé parce que, bon, c'est déjà un film de science-fiction, mais qui, au fond, préfigure un petit peu aussi ce que j'ai dans cette exposition. Il y a même, je pense que Thomas Roussel n'est pas complètement...
Le compositeur,
voilà, le compositeur.
C'est vrai qu'on y trouve quand même quelques
similitudes. On y trouve comme quelques, ouais. quelques référents.
Oui, tout à fait.
Donc, c'est en ça que je trouve qu'il y a bien sûr, on pourrait en citer d'autres, mais voilà, je crois que Blade Runner, c'est bien, c'est par rapport à ce que je fais là, ça me paraît vraiment
approprié.
Voilà. Après, la musique de film, alors bien sûr, là aussi, on pourrait en citer beaucoup, mais bon, Philip Glass, c'est vrai que c'est une musique à la fois parfois minimaliste, mais il a caractérisé les années 80-90, et finalement il m'a aussi influencé parfois dans certaines façons de penser la musique.
Et il a fait un film en particulier, alors, peut-être,
non ? Alors oui, il a fait Les Heures de Stephen Daltrey. Voilà, donc ça, il a composé la musique spécialement pour ça, et je pense que c'est parmi les choses qui me paraissent un des compositeurs, voilà.
Voilà. Et donc pour votre réplique, alors dites-nous.
Alors pour la réplique, je pense qu'une qui me paraît de Alain Berliner dans Ma vie en rose,
oui.
Et il dit ceci: ferme les yeux et le monde devient celui que tu veux.
Je trouve que c'est tellement en référence avec votre travail et votre exposition, c'est quand même assez évocateur, je trouve.
Voilà. Alors, c'est pas le film La vie en rose qui me plaît le plus, mais c'est vrai, quand vous m'avez demandé s'il y avait une réplique, j'ai pensé à celle-là, parce que voilà, elle colle assez bien à mon univers. Et je pense qu'il faut rêver dans la vie, et si on ne rêve pas, on perd quelque chose. Et après, il faut que les rêves deviennent réalité, ça c'est encore l'étape d'après.
Merci infiniment, cher Miguel.
Merci à vous.
Action.
Oui, je suis un peu en manque d'inspiration, mais si on n'écoute pas la radio cinéma, on perd quelque chose d'important.